Bon, si vous voulez, on va recommencer. Donc, dans ce cours 10, je vais commencer à discuter des applications des atomes ultrafroids. Et il y en a de plusieurs types. D'abord, parler des mesures sur une particule atomique unique, mouvement, contrôle du mouvement et observation d'un seul électron, d'un seul ion. Puis, je passerai aux applications résultant de l'existence de temps d'observation long et donc de raies très fines. Application aux horloges atomiques plus stables et plus précises. Ensuite, application résultant du fait que les longueurs d'onde de De Broglie sont très grandes, et c'est l'interférométrie atomique. Et enfin, application résultant du fait que la densité dans l'espace des phases peut être élevée, c'est les gaz quantiques dégénérés. Je ne les aborderai pas aujourd'hui, ils feront l'objet des cours 11 et 12 de la semaine prochaine. Donc je commence par expérience portant sur un électron unique ou une particule unique, un ion unique. Je rappelle le piège de Penning que j'ai discuté tout à l'heure, mais maintenant en mettant la coupelle à un potentiel négatif de manière à piéger une particule de charge moins comme un électron. Et dans un tel piège, on peut montrer que le mouvement est une superposition de trois types de mouvements. Un mouvement cyclotron de précession autour du champ magnétique, perturbé par le champ électrique quadripolaire E. J'appelle nu'C la fréquence cyclotron perturbée. Un mouvement de vibration le long de l'axe Z, dû au potentiel piégeant dans cette direction, fréquence μ Z, et le fait que l'électron se déplace dans des champs croisés A et B entraîne que l'orbite cyclotron se déplace lentement dans cette direction, et c'est un mouvement magnétron, fréquence μm. Et donc j'ai le mouvement classique de l'électron, donc c'est un mouvement cyclotron qui vibre dans cette direction et qui tourne à la fréquence magnétron dans cette direction. Alors, on peut démontrer, donc, voir cours 84-85, qu'on a cette relation entre nu'C, nu'Z, nu'm et la fréquence cyclotron QB0 sur 2πm, et qu'en général, nu'C, la fréquence cyclotron, est très grande devant la fréquence de vibration le long de l'axe Z, est très grande devant la fréquence magnétron. On a une hiérarchie entre ces trois fréquences. Alors, on peut se demander comment détecter la particule. Un électron, on ne peut pas l'exciter optiquement, il n'y a pas de résonance optique. Comment le détecter? À ce moment-là, c'est une détection radioélectrique. J'ai dessiné ici un électron dans le piège de Penning, et quand l'électron vibre le long de l'axe Z, quand il se rapproche de cette coupelle, il y a des charges plus qui sont induites en plus grand nombre que sur l'autre coupelle. Donc, il y a un courant qui circule dans ce circuit-là, et on mesure la tension au bord de cette résistance induite par le courant. Et si la résistance est placée dans l'hélium liquide, le mouvement de l'électron le long de l'axe Z est couplé à la résistance ici et il atteint la même température. Donc on peut refroidir le mouvement de l'électron à la température dans laquelle se trouve la résistance, du bain dans lequel se trouve la résistance. Alors comment peut-on détecter le mouvement cyclotron et le mouvement magnétron? En appliquant des gradients de champ magnétique, en ajoutant au champ du piège de Penning, au champ uniforme, qu'on appelle une bouteille magnétique, on peut faire en sorte que la fréquence de vibration dépende aussi des fréquences de cyclotron et des fréquences magnétron, et que quand on excite la fréquence cyclotron ou la fréquence magnétron, la fréquence de vibration le long de l'axe Z change. Donc on fait toujours la mesure du mouvement de vibration et on détecte sur ce mouvement les autres résonances, résonance cyclotron, résonance magnétron. Et on peut refroidir les mouvements les uns par les autres en les couplant entre eux. J'ai étudié tous ces problèmes en très grand détail dans le cours 84-85 et je vous y renvoie si vous êtes intéressé. Il y a également un grand article de revue de Brown et Gabriel Fay dans Review of Modern Physics la même année, 86, un peu plus tard. Alors, je voudrais monter ici une figure qui est, à mon avis, pas assez connue parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique en physique. Voici un signal de vibration, donc, en fonction du temps, donc on piège un certain nombre d'électrons, et puis si le mouvement de ces vibrations de ces électrons est suffisamment grand, ils partent au fur et à mesure, donc ici il y en a 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, donc ici, on a un seul électron. Donc on a un signal où on voit un seul électron. Et si à ce moment-là on réduit son mouvement de vibration, on peut le garder plusieurs mois. L'équipe de Demet a gardé un électron unique pendant 10 mois. Ils espéraient lui faire son anniversaire, au bout d'un an, ils l'ont perdu par une sorte de manœuvre, mais ils ont fait des manips pendant un an sur le même électron piégé dans le piège de Penning. Et voilà une courbe de résonance, résonance de vibration de l'électron unique, courbe en absorption, courbe en dispersion. Vous voyez, donc ça c'est une courbe de résonance de l'électron unique. Donc, je crois que ce n'est pas assez connu dans la communauté des physiciens et des autres scientifiques, chimistes, biologistes, qu'on est capable en physique de faire des manips sur un seul électron, voire un seul positron. Je voudrais aussi décrire maintenant une expérience que j'ai trouvée particulièrement splendide, une des plus belles expériences que je connais, qui a un effet de bistabilité et d'hystérésis sur, dû à la variation relativiste de la masse d'un électron de 1 électron volt. Alors, c'est une l'idée la suivante. Quand on excite la résonance cyclotron, l'énergie cinétique de l'électron est égale à K0, une certaine constante, qui multiplie gamma sur 2 au carré sur oméga moins oméga C0 au carré plus gamma sur 2 au carré. Où oméga C0 est la fréquence cyclotron QB0 sur M. Donc on a une forme lorentzienne avec gamma, la largeur de la résonance cyclotron. La résonance cyclotron, sa largeur est essentiellement due à la perte d'énergie par rayonnement. Et K0, c'est l'énergie maximale à résonance. Bon, maintenant, comme on le sait, il y a une variation relativiste de la masse avec l'énergie. Donc le fait que l'électron d'une énergie cinétique K entraîne une correction de masse delta M égale K sur C2. Et donc, si on remplace M par M plus K sur C2, on a une variation de la résonance cyclotron, de la fréquence cyclotron, qui devient oméga C0 égale QB0 sur M plus K sur C2, c'est-à-dire oméga C0 que multiplie 1 moins K sur MC2. De sorte que, dans cette formule, il faut remplacer oméga C0 par oméga C0 moins, ça fait plus oméga C0, K sur MC2, le tout au carré. Donc maintenant, la relation qui existe entre K et oméga est une relation cubique. Pour chaque valeur de oméga, c'est une équation du troisième degré en K, et la courbe qui donne K en fonction de oméga a cette forme-là. Forme qu'on peut comprendre, parce que quand on part de là et qu'on se rapproche de résonance, au fur et à mesure qu'on se rapproche de résonance, K augmente, donc la fréquence diminue, donc la résonance est poussée vers la gauche. Donc la courbe devient penchée dans ce sens-là, et on obtient donc la courbe d'un oscillateur non linéaire. Et vous voyez, l'électron a une énergie de 1 électron, dans lequel on voit, il y a donc un effet de correction de masse correspondant à une énergie K de 1 électron volt. Alors, si on a une courbe comme ceci, à ce moment-là, si on balaye lentement la fréquence qui excite la résonance cyclotron dans ce sens-là, j'y tiens balayé jusque-là, puis il va décrocher ici. Si on balaye dans l'autre sens, on va aller dans ce sens, on va décrocher ici, c'est une bistabilité. Le système est bistable, il y a une hystérésis. Alors ça, c'est un effet qui était suggéré par Alex Kaplan en 82 et qui a été observé par Gabriel dans l'équipe de Gemmell en 87. Et voilà le signal. Donc ça fait un seul électron. Hein. Voilà le signal dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, c'est tellement petit ici, cette variation, parce que ma courbe ici est exagérée. La vraie courbe, elle est pratiquement... La largeur est toute petite et le saut ici est beaucoup plus petit. Donc c'est un effet donc, de bistabilité et d'hystérésis lié à la variation relativiste de masse d'un électron de 1 électron volt. Alors, on peut aussi piéger, bien sûr, un positron unique et comparer la masse d'un électron unique à la masse d'un positron unique. Et on peut aussi piéger des ions. Alors, pour les ions, on peut les détecter comme les électrons de manière radioélectrique. Et c'est intéressant parce qu'en comparant les fréquences cyclotrons de deux ions différents, on peut mesurer le rapport de masse. Et c'est une technique maintenant qui permet de mesurer le rapport de masse à 10 moins 10 près. Et ça, c'est extrêmement important pour la métrologie. Et c'est en particulier Dave Pritchard à MIT a accumulé toute une série de mesures très précises de rapport de masse d'ion. Mais les ions ont des niveaux internes et ils peuvent aussi être excités optiquement. Et on peut à ce moment-là exciter avec un laser un ion unique qui est piégé, regarder la fluorescence. Alors on peut se dire, est-ce que c'est facile à voir? La réponse est oui. C'est sensible parce que je vous ai dit tout à l'heure que si gamma est égal à 10 moins 8 secondes, un ion piégé peut émettre 10 puissance 8 photons par seconde. Et même avec une efficacité de détection de 10 moins 4, on peut observer 10 puissance 4 photons par seconde. Et ça, c'est visible à l'œil nu. Évidemment, si on élimine la lumière parasite. Donc, la lumière de fluorescence d'un ion unique peut être détectée à l'œil nu. Évidemment, avec des détecteurs également. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire de la spectroscopie avec un ion unique? D'abord, évidemment, il n'y a plus d'effet Doppler, ni du premier, ni du deuxième ordre. Des temps d'observation très longs. On peut garder des jours. Pas de collision. Donc, on peut faire vraiment de la spectroscopie de très grande résolution. Mais on se heurte tout de suite à deux exigences contradictoires. D'abord, évidemment, il est important d'avoir des raies étroites, puisque la largeur de la raie va être uniquement déterminée par gamma. Donc, pour avoir des standards de fréquence, on a intérêt à avoir gamma petit. Par contre, je vous ai montré qu'il y avait gamma photon émis par seconde. Pour avoir un bon rapport signature-bruit, il faut gamma grand. Donc on a deux exigences contradictoires. Et en fait, Demelt a eu une idée extrêmement astucieuse pour résoudre ce conflit entre ces deux exigences, qu'on appelle la méthode de l'étagère. Alors, il considère un ion avec deux niveaux de cité, l'un très large, que j'appelle le niveau bleu par convention, hein, c'est pas forcément bleu, cet trait n'est pas forcément bleu, mais un très étroit, métastable, le niveau rouge. Et gamma B est très très grand devant gamma R. Alors, le laser bleu, lui, ici, est utilisé pour refroidir l'ion et pour détecter la fluorescence. Et vous voyez à ce moment-là que quand l'ion absorbe un photon rouge et qu'il monte dans l'état gamma R, il reste dans l'état gamma R pendant un temps qui est l'ampurésie du niveau gamma R, qui peut être de l'ordre de la seconde, voire de la minute, si le niveau est métastable. Et pendant qu'il est là, il est sur une étagère, en quelque sorte, et à ce moment-là, il n'est plus disponible pour le laser bleu, la fluorescence bleue s'arrête. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que quand l'atome absorbe un photon rouge, on le détecte par l'absence d'un nombre de photons bleus qui est énorme, parce que le nombre de photons bleus qui aurait été absorbé s'il n'était pas sur l'étagère aurait été gamma B sur gamma R fois plus grand. D'accord ? Donc c'est une méthode extrêmement astucieuse. Alors, dans la proposition initiale de Demelt, il proposait de mettre les lasers bleus et rouges alternés. On met des lasers bleus, des lasers rouges. Alors, quand on met le laser rouge, à l'issue de la phase rouge, où la transition a eu lieu, où elle n'a pas eu lieu. Si elle n'a pas eu lieu, quand on remet le laser bleu, il va y avoir une fluorescence intense. Quand on remet le laser, si la transition, le photon rouge a été absorbé, quand on remet le laser bleu, il n'y aura pas de fluorescence, et donc ça veut dire que l'atome a absorbé un photon rouge. Et pourquoi on ne les met pas ensemble? C'est pour éviter les déplacements lumineux induits par le laser bleu ou sur les niveaux très sensibles sur lesquels on veut faire de la haute résolution du laser rouge. Et alors, il y a eu un papier de Cook et Kimball en 85, disant, bon, si au lieu de faire comme Demelt dit, de les appliquer de manière alternée, on les applique sur les éléments, est-ce qu'on va voir sur le laser rouge, bleu, des sauts quantiques correspondant au passage de l'atome de G à R et réciproquement. Alors, à cette époque, je me rappelle, nous étions avec Jean Dalibard à un congrès, il y avait la moitié des physiciens qui pensaient que non, qu'on n'observait pas de sauts quantiques, et la moitié des physiciens qui pensaient qu'on observerait, parce que les physiciens étaient très conditionnés par les équations de bloc optique, les équations de bloc optique, donc tout varie de manière continue, et l'idée qu'un signal peut varier de manière discontinue était vraiment réfractaire à un certain nombre de gens. Et alors, au congrès même, on a calculé la fonction délai, cas de taux, donnant la répartition des délais taux entre deux émissions successives de photons par ion. Et on a conclu tout de suite qu'il devait exister des sauts quantiques. L'argument est le suivant. Quand on calcule la fonction délai, on trouve pour la fonction délai, W taux, qui, je vous rappelle, donne la distribution des délais entre deux émissions spontanées consécutives, hein. On trouve une forme comme ça, elle part de zéro, puisque, comme je l'expliquais la dernière fois, le dégroupement de photons, une fois que l'atome a émis un photon, il ne peut pas tout de suite après en émettre un deuxième, mais on trouve une aile qui décroît très lentement. Pourquoi elle décroît très lentement? Parce que dans les trois niveaux habillés qui résultent de la diagonalisation de l'hamiltonienne de l'atome habillé, il y en a un qui va avoir une durée de vie très longue, parce qu'il y a un niveau métastable dans le problème. Donc ça veut dire qu'après un saut quantique, on a une probabilité non nulle d'avoir à attendre un temps très long avant d'avoir le prochain photon. Et donc, la suite des émissions spontanées doit avoir cette allure. Des photons très rapprochés, qu'on fait un tirage dans cette zone-là, et puis de temps en temps, on fait un tirage dans cette zone-là, là, on attend un temps très long avant qu'il y ait un photon émis, et ça, c'est une période noire. Donc, on s'attend à trouver cette chose-là, avec des périodes noires dont la durée est de l'ordre de grandeur de la durée du niveau métastable. Et effectivement, un an après notre papier, il y a un papier de Zoller, Marthe et Wall qui faisait le même type de calcul et qui faisait en plus une simulation Monte Carlo. On voit ici la suite des émissions avec le faisceau laser rouge absent. Et quand on met le faisceau laser rouge, on voit des périodes noires apparaître dans la suite des émissions spontanées. Quelques mois après, il y a eu les premières observations à Seattle, dans l'équipe de Demelt. On voit ici BA+, le ion BA+ piégé. On allume le faisceau rouge. Hein. C'est le faisceau qui excite l'étagère, et vous voyez à ce moment-là que la fluorescence s'arrête, et elle peut s'arrêter pendant une minute, c'est 200 secondes. Et ça c'est formidable parce qu'on peut voir avec un microscope, bien sûr qu'on dit qu'on voit l'ion unique, on ne voit pas la dimension de l'ion, on voit le pouvoir de résolution qui est de l'ordre de lambda, donc on voit une tasse qui a une dimension de l'ordre de lambda, et on voit la lumière s'arrêter, se remettre, s'arrêter de manière aléatoire, on voit des choses, on voit vraiment l'évolution d'un système unique au cours du temps. Il y a aussi une expérience de Toshek, dans le groupe de Toshek, qui était encore très très belle aussi, aussi sur l'ion BA+. Alors l'idée de Toshek, c'est d'ajouter un troisième laser qui excite l'ion à partir du niveau étagère. qui excite l'homme vers un niveau plus excité, à partir duquel il retombe dans l'état fondamental. Donc il peut arrêter le séjour sur l'étagère à volonté. Alors l'expérimentateur regarde, et chaque point rouge ici, c'est quand l'observateur voit que la fluorescence s'éteint, il allume le laser numéro 3 qui sort l'atome de l'étagère. Et à ce moment-là, la fluorescence réapparaît. Et chaque couleur apparaît. Donc c'est ici un contrôle de l'évolution d'un système unique en temps réel. En temps réel, l'expérimentateur réagit sur le système et lui fait quitter l'étagère. Et puis s'il met le faisceau, troisième faisceau laser en permanence, il n'y a plus du tout. Il n'y a plus du tout de choquance. Donc ces expériences ont eu un rôle important parce qu'elles ont attiré l'attention des physiciens sur des expériences portant sur un système unique et sur l'importance de leur description théorique. Alors il y a eu des généralisations de la méthode de la fonction de Lay, des situations où la dimension d'Hamiltonien effectif est infinie. Voici là le nombre d'états du système atome plus photon couplé par absorption et émission induite est infini. Voici là le Hamiltonien effectif à une dimension infinie où la fonction de Lay peut être calculée pas par pas sur des temps delta t grands devant le temps de corrélation et petits devant le temps de relaxation. C'est ce qu'on appelle maintenant les méthodes de fonction d'onde Monte Carlo, qui peut montrer dans ses papiers qu'elles sont rigoureusement équivalentes aux équations de bloc optique. Il y a eu aussi d'autres approches, comme les trajectoires quantiques, les approches stochastiques Carmichael, Design et d'autres personnes. La conclusion de ces études, c'est que le fait de pouvoir observer des systèmes uniques a stimulé le développement théorique et a stimuler le développement d'approches où on s'intéresse à une seule réalisation d'une expérience, et non pas des moyennes statistiques, des moyennes sur plusieurs réalisations différentes. Et que dans ces méthodes, l'évolution du système apparaît comme une succession de périodes d'évolution cohérentes où l'Hamiltonien est, où le système évolue de manière hamiltonienne, même si l'Hamiltonien qui le décrit n'est pas hermétique, il est effectif. Et puis, à des temps dont on peut calculer la répartition des probabilités d'occurrence, il y a des sauts quantiques qui se produisent de manière aléatoire. Et que ceci, si en moyenne sur plusieurs réalisations de cette simulation, on obtient des résultats rigoureusement équivalents à ceux des équations traditionnelles de l'optique quantique. Alors, l'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles suggèrent des nouvelles images physiques, comme une marche au hasard dans l'espace de Hilbert. La fonction d'onde est un objet qui se déplace dans l'espace de Hilbert, qui évolue de manière cohérente sous l'effet d'un hamiltonien, puis de temps en temps change brusquement de position sous l'effet d'un saut quantique, et ainsi de suite. Et puis une plus grande efficacité numérique, parce que si on discrétise l'état sur n variables discrètes, il est plus simple de travailler sur un vecteur d'état à n composantes que sur une matrice densité à n2, évidemment. Et ça montre aussi que souvent dans les cours de mécanique quantique, on dit qu'il est aberrant de décrire un processus dissipatif en termes de fonction d'onde. Il faut toujours utiliser la matrice densité. Et ça, c'est quand on a une équation pilote pour décrire la fonction d'onde. Il n'y a pas d'équation pilote pour décrire l'évolution du vecteur d'état. Mais à partir du moment où on met des éléments stochastiques dans l'évolution du vecteur d'état, on peut décrire un phénomène dissipatif de cette manière. Et récemment, il y a eu des généralisations à des problèmes à n-corps, comme une force fluctuante ajoutée à l'équation de Gross-Pitevsky pour aller au-delà de l'approximation du champ moyen, des travaux de Jacopo Caruso, Yann Cassas, Jean Libar, et des généralisations récentes à des fermions. Donc c'est une méthode qui se développe de plus en plus en physique quantique. Je voudrais aussi expliquer que c'est pas le, je n'ai pas épuisé les applications des ions clichés, elles sont extrêmement nombreuses. Il y en a d'autres, d'abord de la spectroscopie, les horloges à ions piégés optiques, c'est très intéressant parce que le facteur de surtension Q égale nu sur delta nu pour des ions dans le domaine optique est beaucoup plus grand que pour le césium où on a une fréquence hyper fine. Delta nu est du même ordre de grandeur, mais nu est beaucoup plus grand pour des fréquences optiques que pour des fréquences micro-ondes. D'autre part, dans l'équipe de Dave Weiland a réalisé des, entre guillemets, chats de Schrödinger avec des ions piégés uniques de manière très élégante, de la manière suivante. On prend un ion piégé dans le niveau de vibration le plus bas, comme je l'expliquais tout à l'heure. On fait une impulsion de pi sur 2 qui le prépare en une superposition de deux états de spin différents. Au moyen d'un potentiel d'une force radiative dépendante d'état interne, on déplace la partie de la fonction d'onde de l'état plus par rapport à la partie de la fonction d'onde de l'état moins. On a donc deux paquets d'ondes dans le puits de potentiel parabolique, et ces deux paquets d'ondes oscillent, par exemple en opposition de phase. Donc on a un ion dans un état qui est formé de deux paquets d'ondes qui oscillent de manière en opposition de phase, et c'est un état macroscopique, superposition de deux états. C'est un exemple important de chat quantique, de chat Schrödinger, pardon. Et il y a également, disons, comme l'a montré Ignacio Sirac et Peter Zoller, les chaînes ions piégées dans un pièce linéaire, ici il y a une photo du groupe de Black à Innsbruck montrant quatre ions piégés, et ces quatre ions piégés, par exemple, les adresser, c'est chacun à deux états, donc c'est des qubits quantiques, et on peut les adresser avec des lasers, ils sont couplés les uns et les autres par l'intermédiaire de leur couplage à un mode de vibration commun, et on a un très bel exemple de porte quantique qu'on peut réaliser avec des systèmes de ce type, et des chaînes d'ions piégés, qui se révèlent extrêmement prometteuses pour l'information quantique. Je n'en parle pas plus en détail, parce que Serge Haroche, dans son cours d'information quantique, a passé beaucoup de temps à les décrire. Et je passe maintenant à la deuxième catégorie d'applications, qui sont les horloges atomiques, qui sont les suivantes. Comme vous le savez, la seconde, c'est la durée de 9, tous ces chiffres, la période de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux F égale 4 et F égale 3 de l'atome de césium. Donc, la seconde est définie à partir de cette transition de l'atome de césium, et l'atome de césium est le même partout, donc c'est un étalon universel, à condition bien sûr qu'il n'y a pas d'effet paratype modifiant la fréquence de l'atome de césium s'il est à Paris ou à Moscou ou à New York. Donc on a une horloge atomique si l'atome est suffisamment isolé. Et une horloge atomique, c'est un oscillateur à quartz, éventuellement, dont la fréquence est verrouillée, stabilisée sur cette fréquence. Donc elle est verrouillée sur l'étalon de fréquence qui définit la seconde. Alors pourquoi les atomes froids sont intéressants? C'est facile à comprendre. Le principe d'une horloge atomique est très schématisé là-dessus. On a un oscillateur, aussi stable qu'on peut, bien sûr. Avec cet oscillateur, on balaye la fréquence du césium, la transition F égale 3 F égale 4 du césium, et on a une boucle de correction qui assujettit la fréquence de l'oscillateur à rester verrouillée, centrée sur le centre de la fréquence atomique. Alors, il est évident que cette fréquence atomique a une fréquence centrale mu0 et puis une largeur delta nu. Plus delta nu va être petit, plus le centre mu0 pourrait être pointé avec précision. Or, comme il s'agit d'un état fondamental, la largeur de cette résonance est inversement proportionnelle au temps d'observation 1 sur t. Les atomes froids qui sont lents ont des vitesses petites, donc on peut allonger t, diminuer delta nu et donc augmenter considérablement la finesse des rayons. Alors, en fait, si on a un J atomique, et qu'on le ralentit, pour ralentir son passage, les horloges habituelles utilisent un J atomique, de l'ordre du 100 mètres par seconde, 200 mètres par seconde. Elles passent entre deux bobines et on obtient des fréquences de Ramsey, dont la finesse est déterminée par le temps de passage de l'atome d'une bobine à l'autre. Si on essaie de ralentir les atomes vont tomber. D'où l'idée, au lieu de prendre un G atomique horizontal, de prendre un G atomique vertical. On a une mélasse d'atomes froids ici, avec une impulsion laser, on les lance en haut, les atomes montent, passent une première fois dans leur trajet ascendant à travers la boucle micro-ondes qui est ici, et puis ils retombent, une deuxième fois, ils retombent, ils passent une deuxième fois dans la boucle de micro-ondes, et on obtient donc à ce moment-là un signal de Ramsey lié à ce temps-là, temps de montée et de descente. Et vous voyez que, au lieu d'avoir un temps qui est de l'ordre de la milliseconde, pour une transition atomique, une horloge atomique standard, on a un temps ici qui peut atteindre une fraction de seconde, 0,5 secondes. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fontaine atomique, parce que c'est une fontaine, c'est exactement comme une fontaine, comme un jet d'eau. Les premières fontaines ont été faites sur le sodium à Stanford, et puis peu de temps après à Paris, et il y a une collaboration entre l'école normale et le laboratoire primaire du temps de fréquence, entre Cléton Salomon et André Clairon, qui a maintenant, je crois, des horloges les plus précises et les plus stables au monde, une stabilité de fréquence de l'ordre de 5·10⁻⁶ pour un temps d'intégration de 20 000 secondes, et une précision, c'est-à-dire une reproductibilité de la fréquence qui peut être de 1·5·10⁻¹. Peut-être ces chiffres sont déjà même améliorés maintenant. Voilà un exemple de fontaine du LPTF, à peu près un mètre de haut. Alors, il est difficile d'augmenter la hauteur de la fontaine, parce que si on multiplie la hauteur de la fontaine par 10, on augmente le temps seulement par racine de 10. Donc, c'est pas très réaliste. Voilà les fréquences de Ramsey. Et voilà la fréquence centrale, avec une largeur de l'ordre du Hertz. Des détails plus précis peuvent être trouvés dans cette référence. Alors, évidemment, c'est pas possible d'augmenter trop la hauteur de la fontaine, c'est pas la liste, d'où l'idée naturelle qui s'impose à ce moment-là, c'est de se débarrasser de la gravité et de faire des expériences en microgravité. Alors il y a eu toute une série d'expériences qui ont été faites dans ce qu'on appelle des vols paraboliques, où un Caravelle ou un Airbus du CNES, le pilote met son appareil en vol ascendant, coupe les gaz, donc l'appareil fait une parabole, puis quand il retombe, le pilote remet les gaz et puis une deuxième parabole, et la parabole dure, je crois, 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, la gravité est réduite de manière appréciable. Voilà par exemple un exemple, ça c'est l'équipe à temps froid dans des vols, faisant la manip pendant une période une séparable. Alors, les progrès ont été spectaculaires dans ce domaine des horloges. Voilà par exemple les francs de Ramsey observés avec un jet thermique de 100 mètres par seconde, avec un temps d'interaction de l'ordre de 5 millisecondes et une largeur de 100 Hz. On augmente ici par un facteur 14 l'échelle. Voilà une fontaine maintenant, les francs de Ramsey d'une fontaine, avec une vitesse de 4 mètres par seconde au lieu de 100 mètres par seconde, un temps d'interaction de 0,5 secondes et des largeurs de 1 Hz. Et dans le projet Pharao, projet d'horloge atomique par ralentissement d'atomes en orbite, en microgravité, V égale 0,05 mètres par seconde, T égale 5 secondes et des largeurs de 0,1 Hz. Donc vous voyez qu'il y a eu une rupture technologique de passage. L'utilisation des atomes froids a fait une rupture technologique et maintenant tous les pays du monde changent leur standard de fréquence pour faire des horloges atomes froids des fontaines. Alors je voudrais donner deux applications physiques importantes de retombées de ces travaux. D'abord, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la mise en évidence très claire du bruit de projection quantique. C'est vraiment un effet de mécanique quantique très très beau. Et c'est une des limites fondamentales du bruit de ces horloges, une fois qu'on a éliminé toutes les sources de bruit techniques. Et ce bruit est lié au caractère discret du résultat de mesure. En effet, quand on fait une mesure de l'horloge, on a deux états, un inférieur F1, F2 ou E et G. Et ce qu'on mesure, c'est un signal qui est égal à 1 si l'atome est dans G, par exemple, et 0 si l'atome est dans E. On ne mesure pas quelque chose entre les deux. Donc, ou l'atome est dans un niveau, ou il ne l'est pas. Donc l'observable qu'on mesure, c'est le projecteur sur G, c'est G et G, projecteur sur G. Alors, si quand on fait l'interaction cohérente avec un champ micro-ondes, l'atome est dans une superposition des deux états, alpha G plus bêta E, et il a une probabilité alpha 2 d'être dans G, et bêta 2 égale 1 moins alpha 2 d'être dans E. Et la valeur moyenne du signal, F, c'est qu'on fait la moyenne sur plusieurs atomes, ça va être la probabilité moyenne d'être dans G, ça va être alpha 2, et la variance, c'est la valeur moyenne de pi g carré moins le carré de la valeur moyenne de pi g. Comme pi g est un projecteur, pi g carré c'est pi g, donc c'est la valeur moyenne de pi g moins la valeur moyenne de pi g le tout au carré, c'est alpha 2 moins alpha 4, c'est alpha 2 fois 1 moins alpha 2. Donc vous voyez que, maintenant, si on a un atome indépendant, le signal pour un atome va être n fois la valeur moyenne pour un atome, n alpha 2, si on a un atome indépendant, les variances vont s'ajouter, donc delta Sn au carré va être n delta S2, n alpha 2, 1 moins alpha 2, et donc vous voyez que le rapport signal sur bruit, qui est delta Sn sur delta Sn, va varier comme 1 sur racine de n, où n est le nombre d'atomes. Donc vous voyez que le fait que chaque mesure individuelle ne peut donner qu'un résultat 0 et 1, qui est vraiment le postulat fondamental de la mesure en mécanique quantique, entraîne une dispersion des résultats de mesure autour de la valeur moyenne, et donc un bruit fondamental qui peut devenir prépondérant quand toutes les autres sources de bruit de photons, bruit technique d'oscillateur, bruit de grenaille devient négligeable. Alors c'est un effet qui a été mentionné par le groupe de Wineland en 81 au NIST. Et d'ailleurs, pour essayer de le résoudre, il y a une activité théorique et expérimentale très importante pour essayer de réduire ce bruit en utilisant des états où les n atomes ne sont plus indépendants mais sont corrélés. Essayer de faire un peu l'équivalent des états comprimés de l'optique quantique pour ces états-là. Alors, à Paris, donc dans l'équipe Christophe Salomon et André Clairon, ce bruit a pu être mis en évidence en utilisant un quartz de très très grande qualité, un quartz où le bruit dû au quartz était très très petit et où par conséquent ce bruit est montré de manière très claire. Voilà le bruit en fonction du nombre d'atomes, n atomiques, on a une loi en n puissance moins 1,5. Un deuxième effet fondamental qu'on peut étudier au moyen des horloges, c'est une recherche éventuelle des dérives des constantes fondamentales. En effet, à cause des corrections relativistes, la structure hyperfine d'un atome alcalin dépend à la fois de la structure hyperfine, de la constante de structure fine alpha, et du numéro atomique Z. De sorte que, ça a démontré dans ce papier, de sorte que quand on fait le rapport de structure hyperfine de deux alcalins différents, les alpha ne se simplifient pas, et il reste une dépendance en alpha. Donc le rapport des deux structures hyperfines, donc le rapport des deux fréquences d'horloge, suivant qu'on prend une horloge à rubidium ou une horloge à césium, dépend de alpha. Et si on mesure ce rapport avec une très grande précision de l'ordre de 10⁻⁶ pendant plusieurs années, on peut essayer de mettre une borne supérieure à alpha point sur alpha, 1 sur alpha et alpha sur dt. Alors les autres tests, qui ne sont pas des tests de laboratoire, existent. Un réacteur nucléaire naturel au Gabon, dans le site d'Oklo, qui s'est produit une réaction nucléaire qui s'est produite il y a des millions d'années dans ce sous-sol du site d'Oklo, où des produits radioactifs ont été formés. Et en comparant la distribution de ces produits radioactifs aux distributions qu'on observe avec, aux mêmes désintégrations maintenant, on peut voir si ça a varié, si cette proportion a varié au cours du temps, sur des millions d'années. Il y a aussi de la spectroscopie d'absorption de la lumière émise par des quasars très très lointains, plusieurs milliards d'années, millions d'années-lumière, qui permet aussi de regarder si les constantes fondamentales varient. Alors, pour l'horloge atomique, voilà le rapport de la fréquence du rubidium à la fréquence du césium en fonction du temps, entre 1998 et 2003. Vous voyez d'abord que la barre d'erreur se rétrécit parce que les espèces deviennent de plus en plus précises. Et on peut donc affirmer que des sobriétés de log de nu rubidium sur nu césium est donnée par cette valeur-là. Et si on admet que cette variation provient que de la variation de alpha, on peut en déduire cette limite sur alpha point sur alpha, qui est la meilleure limite actuelle pour les expériences en laboratoire. Vous voyez, il n'y a pas d'évidence que ça varie, parce que 0,4 est petit devant 16, devant la barre d'erreur, mais en augmentant le temps d'observation, qui sait, on pourra peut-être observer une variation de alpha au cours du temps. Je voudrais, avant de quitter ce domaine des horloges, mentionner une autre application qui apparaît extrêmement importante, c'est que les fontaines atomiques réalisées par exemple au BNN, CIRS, sont transportables, on peut les mettre dans un camion, les transporter. Et récemment, donc, une telle horloge est partie à Munich, à Garching, et il a été possible, grâce à cette horloge, de mesurer en valeur absolue, et en utilisant aussi des peines de fréquence dont j'ai parlé dans mon premier cours, mis au point dans l'équipe de Ted Hens, il a été possible de mesurer de manière la fréquence absolue de la transition 1S2S de l'hydrogène à 2 10 puissance moins 14 près. Donc la combinaison des peignes de fréquence, d'une part, et des horloges atomiques transportables, la fontaine d'atomes froids, va certainement révolutionner toute la spectroscopie optique et toute la mesure absolue des fréquences optiques. Enfin, ici, il y a un projet de mettre sur la station spatiale, si les crédits ne sont pas coupés, dans les années 2005-2006, des horloges atomes froids qui enverront donc des signaux à toutes les horloges spatiales, toutes les horloges sur la Terre, qui permettront de donner une référence de temps à toutes les horloges, une validation de toutes les horloges spatiales qui sont utilisées pour le système GPS et qui seront aussi très utiles pour faire des tests de physique fondamentale comme le déplacement vers le rouge d'Einstein, parce que l'horloge qui sera dans la station spatiale ne sera pas dans le même champ de gravitation que l'horloge qui est sur le sol. Donc il y a toute une série d'expériences fondamentales qui pourraient être envisagées si ce projet voit le jour, projet supporté par le CNES et l'Agence spatiale européenne. Et des détails très complets sur ce projet peuvent être trouvés dans cet article de revue qui est publié dans les comptes rendus. Je passe maintenant à un autre sujet qui est l'optique et l'interférométrie atomique. Et là aussi qui est un domaine qui se développe à une vitesse absolument prodigieuse à ce moment. Et je voudrais un petit peu faire un historique, un peu, d'abord très rapide, des recherches dans ce domaine. D'abord, la première fois qu'on parle de longueur d'onde associée, d'une onde associée à une particule, c'est bien sûr les travaux de Louis de Broglie, sa thèse de doctorat en 1924, où il introduit la relation lambda de Broglie égale H sur mg. En 27, cette formule est vérifiée par les expériences de diffraction électronique, des diffractions d'électrons par des cristaux, les expériences fameuses de Davison et Germer, et qui débouche ensuite sur le microscope électronique. Puis il y a eu toute une série d'expériences magnifiques, tout un domaine de recherche extrêmement actif, qui a été la diffraction des neutrons. Les neutrons sont des particules matérielles neutres, et il leur est associé des ondes qui sont diffractées par des cristaux, par des milieux condensés, et la diffraction des neutrons a été extrêmement utile pour étudier la structure et la dynamique de divers types de milieux en matière condensée, pour mesurer en particulier la fraction condensée dans l'hélium superfluide, dans toute une série de travaux. Et il y a eu aussi toute une série d'expériences superbes, où les physiciens ont utilisé des diffractions de Bragg sur trois faces, trois lames taillées dans un même bloc cristallin. On a un bloc cristallin dans lequel on taille trois lames, et un grand nombre d'effets physiques ont pu être étudiés, donc l'interférométrie à neutrons, la rotation de 2π d'un spin 1/2, qui sont le signe de la fonction d'onde, des effets inertiels comme l'effet de la gravitation, l'effet de la rotation, des effets topologiques comme l'effet Aronoff-Kreischer, etc. Il y a toute une série. J'ai étudié en détail un certain nombre de ces effets dans le cours sur l'interférométrie atomique de 92-93. Ça, c'est les neutrons, ça peut être fait qu'au voisinage d'un réacteur à neutrons, donc ce n'est pas tous les labos qui peuvent faire ce type d'expérience. Pour les atomes, les ondes associées à des atomes, maintenant, la première expérience, je crois, c'était une expérience de Esterman en 1930, diffraction d'un jet d'atomes d'hélium, léger des atomes de sodium, donc des longueurs de Broglie grandes, sur un cristal de chlorure de sodium. Puis, à partir du moment où les méthodes de refroidissement et de piégeage par laser se sont développées, il y a eu tout un développement de ce qu'on peut appeler une optique atomique, le développement de composants pour rendre de Broglie atomique. D'abord, des nanostructures, mais aussi les progrès de la lithographie, des techniques permettant de faire des structures matérielles avec des nanostructures, des formes de 100 nanomètres, un micron de large, dans des plaques. La diffraction d'ondes de Broglie atomique par des ondes laser stationnaires. Les ondes laser stationnaires introduisent un potentiel périodique, et si on envoie une onde de Broglie là-dessus, elle va être diffractée, et on obtient l'équivalent, l'extension aux atomes d'un effet qui a été pour la première fois introduit en physique par Capitzas-Dirac sur des électrons. Des lames séparatrices pour ondes de Broglie associées à des échanges d'impulsion entre atomes et photons lors de processus d'absorption différemment stimulés. Vous vous rappelez, un atome GP, quand il traverse une onde, peut transformer une superposition de GP et P plus Lamarckien. On sépare donc une onde de Broglie en deux de manière cohérente. La réflexion d'une onde de Broglie sur une onde laser évanescente désaccordée vers le bleu, qui donne l'équivalent d'un miroir. Donc il y a eu toutes les composants de l'optique habituelle ont été transférés comme ça aux ondes de Broglie. Alors, évidemment, quand on passe donc, des ondes de Broglie, la première chose à laquelle on pense, est-ce qu'on peut généraliser les ondes des Franck de Ramsey au domaine optique? Alors, imaginez qu'on ait deux ondes laser, comme ceci. Imaginez, ne regardez pas d'abord ce, ne regardez pas ça, regardez uniquement GP, un atome G d'impulsion P qui traverse les deux ondes laser. Alors, est-ce qu'il va supprimer une interaction là, puis une deuxième interaction là? Est-ce qu'on va avoir des Franck de Ramsey? Pas facile du tout, parce qu'il est très difficile de faire un faisceau atomique qui a une dispersion angulaire nulle. Donc il va avoir une certaine dispersion angulaire du faisceau atomique, et si la dispersion angulaire est telle que, si j'appelle delta V la dispersion de vitesse de ce faisceau le long de l'axe Z, si delta V que multiplie T, T le temps de passage de l'atome de cette onde à cette onde-là, delta VT est plus grand que lambda laser, des trajectoires vont passer à ce point-là, d'autres trajectoires vont passer à un point situé à une distance de l'ordre de lambda, le déphasage va être complètement différent et les franges vont se brouiller. Donc pour observer des franges de Ramsey dans le domaine optique avec deux ondes, il faudra avoir un faisceau atomique d'une dispersion angulaire pratiquement nulle, si on va avoir un temps T long. Maintenant, la condition delta V T plus grand que lambda laser, on peut la réinterpréter de la manière suivante. Quand l'atome passe ici GP, il peut passer dans l'état cité, gagner P plus H bar K. Et si on a ces deux trajectoires-là, les deux trajectoires ici vont être séparées. Et cette relation-là, delta VT plus grand que lambda laser, je peux l'écrire H bar sur M delta V plus grand que H bar K en remplaçant lambda par 2π sur K. H bar sur M delta V plus petit que H bar K sur MT. Et donc la condition que les francs se brouillent, c'est équivalent à H bar sur M delta V plus petit que H bar K sur MT. Et à ce moment-là, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que H bar K sur MT? Comme la différence de vitesse de ces deux trajectoires, c'est H bar K sur M, c'est la puissance du photon absorbé, qui multiplie T. H bar K sur MT, c'est la séparation spatiale de ces deux trajectoires. Et les franges de Ramsey se brouillent si H bar K sur MT, la séparation de ces deux trajectoires, est plus grande que H bar sur M delta V, qui est la longueur de cohérence dans cette direction du faisceau atomique. Donc à partir du moment où les deux faisceaux se sont séparés à cause du transfert d'impulsion d'une quantité plus grande que la longueur de cohérence, les franges de Ramsey ne peuvent plus être observées. Et c'est là qu'il y a une idée très ingénieuse de Christian Bordet, qui est de dire, ben, à ce moment-là, si pour les voir réapparaître, il faut que je referme les trajectoires en ajoutant deux ondes laser se propageant ici dans des directions opposées. Et à ce moment-là, si je reprends ce petit schéma et que je le prolonge, je vois que ces deux trajectoires peuvent se recouper ici, et il est facile de vérifier à ce moment-là que même si je prends des directions angulaires différentes du faisceau atomique dans l'état G, les trajectoires vont toujours se recouper et j'aurai toujours des franges de Ramsey. Et ça a été démontré donc par des expériences de Christian Bordet, Christophe Salomon et autres pendant les années 84. Donc ce système qu'on appelle maintenant l'interféromètre de Ramsey-Bordet permet de généraliser au domaine optique les franges de Ramsey. Il y a eu d'autres propositions aussi d'utiliser des processus à deux photons. Donc les franges de Ramsey sont également donc observables dans le domaine optique. Alors une première application des franges de Ramsey dans le domaine optique, c'est la mesure de H sur M. Si j'ai ici deux paires de faisceaux laser, pour être en sens opposé, j'ai un interféromètre de ce type-là, et on peut calculer que la probabilité de sortir dans l'état, si je rentre dans l'état G, la probabilité de sortir dans l'état E est donnée par cette formule 1 quart moins 1 huitième de cosinus de oméga L moins oméga moins A moins oméga RT, où oméga R est la fréquence de recul H bar 2 K2. Ah, je m'excuse, il n'y a pas de H bar 2, c'est H bar K2 sur 2L. T est le temps de vol d'une onde à l'onde de chaque paire. Maintenant, on peut avoir aussi un autre interféromètre où les trajectoires se referment de cette manière-là, où dans l'état intermédiaire, les deux atomes sont dans l'état excité, et à ce moment-là, la probabilité de sortir dans l'état E est donnée par cette formule, le signe moins qui est ici, remplacé par un signe plus. Ce calcul est fait en très très grand détail dans le cours 92-93, chapitre 3. Donc, si vous êtes intéressé par ces deux formules, vous trouverez une démonstration précise dans ce cours-là. Le fait est que, si on regarde, on rentre des atomes dans l'état G et qu'on regarde leur sortie dans l'état E, on va trouver deux systèmes de Franck de Ramsey centrés en deux points différents, la distance entre les deux Francs centrales étant 2 oméga R, c'est-à-dire la fréquence de recul. Et on peut augmenter encore cette distance en mettant plusieurs paires d'ondes là-dessus pour augmenter la déception. Donc il est possible par cette méthode de mesurer oméga R, et donc H bar sur L, H sur L, H sur la masse de l'atome. Et Steve Chu a suggéré d'utiliser cet effet pour mesurer H sur M et en déduire alpha. En effet, la constante de structure fine alpha 2 peut être écrite, alpha 2, 2 Rydberg sur C, M proton sur M électron, qui multiplie M atome sur M proton, qui multiplie H sur M atome. Les M atomes s'en vont, les M protons sont là, et on retrouve le alpha 2. Cette valeur est connue très très précisément, Rydberg est connue très précisément, M atome sur M proton est connu par des expériences de spectroscopie de masse ions piégés dans un même piège de Penning. Et si on mesure H sur M atome, donc on peut mesurer alpha. D'accord ? Donc ça c'est une méthode très précise, développée actuellement dans l'équipe de Steve Chu à Stanford, également au cours ou au laboratoire Carter Brossel dans l'équipe de François Biramin. Deuxième application, les gyromètres. Si on a un faisceau atomique, une onde de Dorée qui arrive dans cette direction et qu'on lui fait passer les deux bras de l'interféromètre, recombinés ici, si la plateforme sur laquelle se trouve l'interféromètre tourne à une vitesse angulaire oméga, on peut montrer à ce moment-là que le déphasage entre les deux ondes change de phi, delta phi. Si on utilise des photons, on a delta phi photon égale 2 oméga sur C2 F grand oméga, où F est la surface de cette boucle, petit oméga est la fréquence des photons, C la vitesse de la lumière, grand oméga la fréquence de rotation, alors que si on prend des ondes de De Broglie, delta phi atome, c'est 2m sur h bar, f oméga, le même f, le même grand oméga, et m, c'est la masse de l'atome. Si on fait le rapport des deux, on trouve que delta phi atome sur delta phi photon, c'est mc2 sur h bar oméga, c'est une quantité qui peut atteindre 10 puissance 11. Donc, la sensibilité d'un interféromètre de Sagnac, ça c'est l'effet Sagnac, à onde de De Broglie, est considérablement, potentiellement beaucoup plus élevée que celle d'un gyromètre laser. Alors, évidemment, c'est pas encore, on n'a pas encore le degré de sophistication des fibres optiques qu'on peut en tourner sur plusieurs kilomètres dans le gyromètre, sur plusieurs dizaines de mètres sur le gyromètre laser, qui est plus difficile. Mais dès actuellement, les prototypes de gyromètres à ondes de De Broglie sont meilleurs que les meilleurs gyromètres laser. Évidemment, c'est des trucs beaucoup plus importants. Alors, les premiers gyromètres à ondes de De Broglie ont été réalisés au FPTB avec la collaboration de Christian Bordet, et puis ils ont été depuis élaborés beaucoup plus précisément dans l'équipe de Marc Kazevich aux USA, et maintenant ils atteignent, je crois, une sensibilité de 6.10 radians par seconde pour un temps d'intégration de 1 seconde. À titre d'exemple, à titre de comparaison, la rotation de la Terre, un tour par 24 heures, est de l'ordre de 7.3 × 10⁻⁶ radians par seconde. Donc ces gyromètres peuvent détecter des rotations qui sont, 10 000 fois plus petites que la rotation de la Terre. Vous voyez le problème de la sensibilité. Si vous êtes intéressé par ces problèmes, je vous renvoie au compte-rendu du symposium HIPER, un projet spatial de gyromètre laser, qui s'est tenu l'an dernier, 4-6 novembre 2002, et dont vous pouvez trouver toutes les conférences sur le site qui est donné ici. Alors, les atomes froids ont eu un impact considérable dans ce domaine de recherche. C'est facile à comprendre pourquoi. D'abord, le ralentissement des atomes fait que la valeur moyenne de P est petite. Donc, une faible valeur de P augmente la déviation angulaire H bar K sur P du jet atomique après transfert d'impulsion H bar K. Une faible valeur de P rend aussi beaucoup plus aisé le rebondissement des atomes sur une onde évanescente. le refroidissement des atomes donne un delta P petit, et delta P petit veut dire qu'une longueur d'onde de cohérence à joueur sur delta P grande, donc une focalisation plus aisée et des fentes d'interférence plus fines. Enfin, et ici on a une optique dissipative parce que les processus qui focalisent les ondes, qui les guident, peuvent être aussi des processus d'amortissement, il peut y avoir une collimation par effet de refroidissement laser, ce qui n'est pas le cas en optique. En particulier, l'étendue du faisceau n'est plus nécessairement conservée comme c'est le cas en optique. On a une collimation par refroidissement transverse et une non-conservation de l'étendue. Donc ça, ça a un impact extrêmement important et ça explique le développement considérable de ces recherches. J'ai donné ici un premier exemple de fringues d'interférence obtenues, de fringues Young obtenues avec des atomes. C'est une expérience faite par Karnal et Blinek au début des années 91 à Constance. On a ici annoncé une diffraction par des nanofentes de quelques centaines de nanomètres percées dans une plaque. On a un jet d'hélium métastable qui passe à travers cette fente source, ces deux fentes Young, et puis on voit ici sur l'écran, avec un détecteur, comme c'est des atomes métastables, on les détecte un par un, on voit ici de très belles fringues d'interférence. Alors, dans cette expérience, il n'y a pas de refroidissement, c'est un jet thermique. Il y a une expérience plus élégante, je trouve, qui a été faite peu de temps après par Shimizu, l'équipe de Shimizu à Tokyo, où ils partent d'un nuage d'atomes de néon métastable, refroidi par laser. À l'instant donné, ils lâchent le nuage, les atomes tombent, passent sur une lame où il y a eu deux fentes de 1 micron de large séparé de 3 microns, et comme c'est des atomes métastables, on peut aussi les observer un par un sur un écran ici, et voilà ce qu'on observe. On observe, comme ceci, une série de points. Chacun de ces points, c'est un impact localisé d'un atome de néon métastable, et vous voyez très bien que la répartition spatiale des impacts montre des fringues d'interférence. Alors cette expérience, je la trouve très très belle, parce qu'elle montre clairement la dualité onde-corpuscule pour les atomes, puisque chaque atome est à la fois une particule, on voit un impact localisé, mais que l'onde permet de calculer la probabilité pour que la particule se manifeste en un point donné. Donc, le lien entre l'onde et le corpuscule, c'est un lien probabiliste. L'onde permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. Enfin, je voudrais terminer par la description de deux expériences mettant en évidence le caractère, l'aspect ondulatoire du mouvement des atomes. C'est que les atomes dans ces magnétiques, ce n'est pas seulement des particules, c'est aussi des ondes. Alors, je vous ai décrit, je crois, dans le cours 3 ou 4, une expérience de trampoline pour atomes, où on lâche des atomes sur un miroir pour atomes, et on les voit rebondir plusieurs fois, une dizaine de fois. Alors, dans cette vision du phénomène, l'atome est une petite boule de billard qui rebondit sur un miroir. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a une onde de Dobrel. Et si on revient à l'analogie optique, si on a une onde optique qui est réfléchie par un miroir, si le miroir est fixe, l'onde réfléchie a la même fréquence que l'onde incidente. Mais si le miroir bouge, il va y avoir un effet Doppler à la réflexion, et l'onde qui va être réfléchie va avoir un décalage en fréquence lié à l'effet Doppler lors de la réflexion. Et si le miroir oscille, l'onde réfléchie va avoir une fréquence modulée, une modulation de fréquence, et donc dans le spectre de l'onde réfléchie, vont apparaître des bandes latérales liées à la modulation de fréquence liée à cet effet-là. Donc on ne peut pas se représenter que c'est uniquement des boules de billard qui tombent sur un miroir, qui bougent. Donc si on prend un paquet d'ondes atomiques qui est réfléchi par un miroir qui vibre, une onde évanescente qui vibre, les ondes réfléchies doivent être modulées en fréquence, donc l'énergie des particules réfléchies doit être quantifiée et doit avoir comme fréquence, comme énergie, des énergies séparées de n h bar oméga, où n est un entier et oméga la fréquence de vibration de l'onde. Alors ça, c'est un effet qui a été observé donc, au laboratoire dans l'équipe de Jean Galibard en 1995. Le principe de l'expérience est le suivant. Il est représenté en ordonnée z, l'altitude des atomes en abscisse le temps, une boule d'atomes froids ici qui est lâchée à l'instant t égale 0, donc qui tombe, donc ça fait une parabole, z en fonction du t est une parabole. Ils sont réfléchis par un miroir qui est appliqué pendant cette impulsion, ils font donc un premier rebond, et dans le deuxième rebond, l'intensité de l'onde évanescente est modulée. Ça veut dire que l'amplitude, le point où les atomes sont réfléchis est modulé, donc on a l'équivalent d'un miroir vibrant. À ce moment-là, si on prend au sérieux l'image de l'onde de Debreuil qui est réfléchie par un miroir vibrant, l'onde de Debreuil réfléchie va être modulée en fréquence, donc la particule réfléchie va avoir des énergies discrètes, Donc on va avoir plusieurs paraboles. Ici, pas de modulation, pas de modification d'énergie. Ici, énergie plus grand oméga, ici oméga moins grand oméga. Et vous voyez que si on met un faisceau sonde à une certaine distance au-dessus du miroir, on va avoir les atomes arriver à des instants différents. On fait donc une transformation du spectre de fréquence en un spectre de temps de vol, et les atomes vont arriver à des instants différents. Et c'est bien ce que confirme l'expérience. Pour un miroir fixe, on a un seul point, une seule structure. Quand on module l'intensité de l'onde évanescente, on voit apparaître des bandes latérales qui se resserrent quand on augmente, quand on diminue la fréquence de modulation, et avec des intensités qui reflètent les fonctions de Bessel de la modulation de fréquence. D'accord ? Donc, si les atomes étaient des boules de billard tombant sur un miroir qui vibre, suivant le moment où ils tombent, ils seraient réfléchis avec une vitesse différente, et on aurait un spectre continu. Le fait qu'on ait un spectre discret ici est un effet purement quantique lié au caractère ondulatoire des ondes qui sont associées aux particules. Il y a un deuxième effet qui a été étudié au laboratoire, qu'on appelle les oscillations de Bloch, et qui est le suivant. Avec les méthodes de refroidissement subrécule, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais que j'ai malheureusement pas eu le temps d'expliquer en détail à cause de manque de temps, il est possible de refroidir les atomes et de leur donner un delta P plus petit que Hbarca. C'est ça, justement, le refroidissement subrécule, c'est avoir delta P plus petit que l'impulsion d'un photon. Si delta P est plus petit que Hbarca, ça veut dire que Hbar sur delta P, la longueur de cohérence, est plus grande que Hbar sur Hbarca, c'est-à-dire plus grande que la longueur d'onde du laser. Donc à ce moment-là, la fonction atomique est cohérente sur plusieurs longueurs d'onde du laser. Si on met maintenant un tel atome refroidi par refroidissement subrecul dans une onde stationnaire laser, on a un potentiel périodique, les déplacements lumineux associés à l'onde stationnaire sont périodiques, et on a donc une onde stationnaire qui est une onde de De Broglie qui est répartie, qui est cohérente sur plusieurs puits de potentiel de l'onde laser stationnaire. On peut donc, si vous voulez, préparer un état de bloc de l'atome dans ce potentiel périodique. Maintenant, en variant les fréquences des deux ondes qui forment l'onde laser stationnaire, il est possible d'accélérer l'onde stationnaire, de faire en sorte que l'onde stationnaire, au lieu d'être fixe dans le référentiel du laboratoire, est accélérée. Il suffit de varier les fréquences des deux ondes qui forment l'onde stationnaire. Si je me mets dans le référentiel au repos de cette onde, si l'onde est accélérée, dans le référentiel au repos, on va avoir un champ inertiel qui va être proportionnel à l'accélération que j'ai communiquée à l'onde laser. Et donc, dans ce référentiel au repos de l'onde laser stationnaire, les atomes vont être soumis au potentiel périodique créé par le laser, d'une part, qui est fixe dans le référentiel au repos de l'onde stationnaire, et à une force constante. On a donc mimé un problème important de la physique du solide, qui est un électron dans un potentiel périodique d'un cristal, soumis en plus à une force constante exercée par exemple par un champ électrique. Et alors là, c'est un phénomène qui va donner, une situation qui va donner naissance à des effets qui ne sont pas du tout classiques et qui sont les suivants. L'onde stationnaire, l'onde de De Broglie qui est associée à l'atome dans l'onde stationnaire, laser, va être accélérée. Donc quand l'onde de De Broglie est accélérée, sa longueur d'onde de De Broglie diminue. Et puis il va arriver un moment où cette longueur d'onde de De Broglie, de l'onde accélérée, est égale à la longueur d'onde de l'onde stationnaire laser. Et à ce moment-là, on va avoir une réflexion de Bragg de l'onde de De Broglie par les différents plans de l'onde stationnaire laser. Et au lieu d'être accélérée et de continuer à augmenter de vitesse, l'onde va être réfléchie, va subir une réflexion de Bragg sur le potentiel stationnaire. Et donc la vitesse moyenne de l'atome, au lieu d'augmenter linéairement avec le temps, comme ce serait le cas s'il a... on avait un électron libre, va subir des oscillations qui ont été prévues la première fois par Félix Bloch, qu'on appelle les oscillations de Bloch, qui sont typiques donc du comportement d'une particule quantique décrite par une onde dans un potentiel périodique quand cette particule quantique est soumise à une force constante. Et cet effet a été observé donc, dans la thèse de doctorat de Maxime Dahan. Et on voit très bien ici, dans l'équipe de Christophe Salomon, on voit ici très bien des oscillations de Bloch montrant le caractère quantique, donc le caractère ondulatoire du mouvement de l'atome. Donc vous voyez que ce domaine de recherche a permis donc de clarifier un certain nombre de questions relatives au degré de liberté de translation du mouvement d'un atome neutre et ont donc conduit à une moisson de résultats. Il est certain, il est plus que certain que le développement des interféromètres atomiques va continuer à se poursuivre et qu'il va donner peut-être que dans une dizaine d'années, les gyromètres qu'utilisent les avions pour la navigation sont des gyromètres à onde de Bragg, si en particulier les techniques de miniaturisation de condensat Bose-Einstein sur des puces, l'équivalent de puces sur des substrats de dimension toute petite, se développent, peut-être que ces techniques vont devenir très importantes. Donc j'ai passé ici en revue trois domaines d'application donc, de ces techniques, les particules uniques piégées, les ions piégés, les électrons piégés, les horloges atomiques, l'interférométrie atomique. Il y a une quatrième catégorie d'application qui est encore plus explosive en ce moment, qui est les gaz quantiques dégénérés, la condensation de Bose-Einstein, les gaz de Fermi dégénérés. Je leur consacrerai donc le cours 11 de la semaine prochaine, la moitié du cours 12, et je terminerai par une conclusion générale sur le cours de cette année. Je vous remercie.